8h10 à Bogota, c'est l'heure de la tranche Haïti Amérique. C'est avec vous, bien sûr, Mickaël Ponge.
Bonjour Sébastien, merci. Il promet un vrai changement et un gouvernement de l'espérance. Gustavo Petro, premier président de gauche de la Colombie. On va longuement s'y arrêter avec notre invité du jour. Les Gonaïves inondées, plus de 3000 familles sinistrées. On sera dans la ville du nord d'Haïti après les pluies diluviennes de la semaine dernière. Et puis le journal de la première, Benoît Ferrand. La NUP, l'Union des Gauches pour les législatives françaises, qui fait un carton aux Antilles et en Guyane.
Carton presque plein, 8 députés sur 10, 4 en Martinique, 3 en Guadeloupe et au moins 1 en Guyane.
A tout à l'heure, Benoît, dans une quinzaine de minutes et bienvenue à tous. Musique et feu d'artifice, vous l'entendez hier à Bogota, pour la première fois de son histoire, la Colombie bascule.
Je suis heureuse, joyeuse. Enfin en Colombie, un gouvernement de gauche, progressiste, inclusif, qui se soucie des gens, qui inclut les communautés ethniques, les femmes, les paysans, les indiens, et qui écoute les voix de tous et de toutes.
A los indígenas, que tengan cuenta las voces de todos y todas.
Voilà la joie et les espoirs de la jeunesse colombienne qui s'était massivement mobilisée l'an dernier lors du PARO, vaste mouvement social. Cette jeunesse ravie de voir Gustavo Petro remporter le second tour de la présidentielle avec 50,45% des voix.
El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás.
Gustavo Petro, ancien guerrier, ancien maire de Bogota, candidat du pacte historique Coalition des Gauches, qui promet, vous l'entendez là, le vrai changement, celui qui consiste à laisser le sectarisme derrière soi, son visage, et partout à la une de la presse colombienne, Christophe Pagé.
Oui, Perrault, la troisième fois a été la bonne, titre La Repubblica, qui fait scène sous Gustavo Petro et son épouse, Veronica Alcocer, se tenant par la taille, le bras levé, à côté de Francia Marquez, la future vice-présidente afro-colombienne, au-dessus d'eux, une banderole, le changement est irrésistible. Le changement, c'est laisser la haine derrière soi, on vient de l'entendre, et c'est aussi la citation qu'a prise El País en couverture du journal. L'ancien guérillero qui, de fait, ne s'est pas laissé dévorer par la violence, titre El Tiempo, notant le ton conciliateur de son discours de victoire et son message d'unité nationale. Analyse du journal, l'arrivée de Gustavo Petro au pouvoir peut largement se voir comme l'apogée heureuse d'un processus de paix qui a réussi à désarmer et démobiliser un mouvement guérillero et porter un de ses membres à la présidence. Bref, un triomphe de la démocratie sur la prise du pouvoir par les armes. Pour autant, pour El Spectador, la question est aujourd'hui de savoir comment soigner tant de blessures ouvertes dans le pays, après des dizaines d'années à stigmatiser tout ce qui est de gauche.
Voilà, comment gouverner, c'est une des questions. Vous allez nous éclairer, Christophe Ventura, bonjour.
Bonjour.
Directeur de recherche à l'IRIS, responsable du programme Amérique latine, Caraïbes. Un mot avant tout de même de cette victoire. Qu'est-ce qui a fait la différence? On disait vendredi que les derniers sondages donnaient Gustavo Petro et Rodolfo Hernandez au coude à coude. Qu'est-ce qui a permis à la gauche de l'emporter?
Oh bah de toute évidence, ce qui a permis ce résultat qui était franchement pas attendu, c'est bien sûr le sursaut de participation des Colombiens, puisque avec plus de 58% de participation, c'est le niveau le plus élevé depuis 50 ans dans une élection colombienne. Il y a véritablement eu un afflux d'électeurs entre le premier et le deuxième tour, afflux qui a été en fait très favorable à Gustavo Petro. Il l'a dit lui-même dans son discours de victoire hier soir. C'est d'abord une victoire qu'il doit à la mobilisation des jeunes et des femmes qui massivement se sont déplacées au deuxième tour alors que certainement au premier tour ils n'avaient pas voté, et tout ça lui a profité, lui permettant donc de réaliser ce pari qui était quand même très difficile, d'obtenir 2,5 millions de voix de plus qu'au premier tour. Il avait peu de réserves sur le papier, et c'est vraiment l'abstention et le sursaut de participation qui explique la victoire de Petro aujourd'hui.
De cette jeunesse, vous disiez, Christophe Ventura, jeunesse en pointe du mouvement social l'an dernier. C'est une victoire de ce PARO aussi, cette victoire de Gustavo Petro.
Bah, disons qu'il est évident que à la fois le PARO, le mouvement de contestation de 2021, qui avait déjà eu un épisode précédent, on s'en souvient, en 2019, mais aussi l'accord de paix, même s'il est en souffrance de 2016, sont des éléments qui sont des jalons qui ont finalement effectivement permis finalement de dessiner les conditions de cette élection de 2022 qui a porté au pouvoir Gustavo Petro après pour sa troisième tentative, portant la gauche à des niveaux qu'elle n'a absolument jamais connus dans ce pays.
Puisque c'est donc la première fois. Alors cette victoire de Petro, c'est aussi la défaite de son rival, hein, Rodolfo Hernandez, et ça, c'est ce que la presse colombienne analyse aujourd'hui, Christophe Pagès.
Oui, le candidat indépendant a fait de la politique en solitaire. Or, rappelle un politologue interrogé par le journal, pour arriver à la présidence, il faut une structure solide et des appuis. Et puis son passé polémique dans l'administration municipale ne lui a pas permis de se faire connaître dans les régions les plus reculées de Colombie, estime Semana. Alors que Gustavo Petro y est parvenu et il a profité de sa campagne pour assister à des débats publics et parler aux paysans.
Ça veut dire donc, je reviens à vous Christophe Ventura, que Rodolfo Hernandez n'a pas su être ce rempart à la gauche tel qu'on l'avait décrit au soir du premier tour. Lui qui avait été, Rodolfo Hernandez, véritablement la surprise de ce premier tour de l'élection présidentielle colombienne.
Oui, il y a deux choses à mon avis à retenir dans ce résultat de Rodolfo Hernandez. Bon, d'abord, il échoue, mais il n'est pas non plus, détruit dans cette élection. Il fait quand même 10 millions et demi de voix. Il avait fait 28% au premier tour. Donc finalement, le tout sauf Gustavo Petro, qui s'était organisé le soir du premier tour et qui était derrière lui, a quand même plutôt fonctionné. C'est-à-dire que la droite colombienne sortante, elle défaite au premier tour. Eh bien, ce qu'on appelle là-bas l'ouribisme en Colombie, a quand même massivement voté pour Rodolfo Hernandez, le portant à des niveaux quand même très très hauts, parce qu'à la fin, il y a 700 000 voix de différence avec Gustavo Petro. Il faut signaler que M. Hernandez termine deuxième avec plus de voix que Iván Duque, le président sortant, lorsqu'il a été élu en 2018 dans une autre configuration. Mmh. Alors, il n'est pas défait, mais il est quand même battu, parce que justement, la droite a fait certainement le plein de ses voix. Mais Gustavo Petro, comme je le disais, a réussi à faire venir vers lui des gens qui avaient une aspiration démocratique large dans la société et probablement une partie du centre qui n'a pas voulu voter pour Hernandez. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que Petro avait une conception de la politique basée sur les mouvements sociaux organisés, ancrés territorialement. Monsieur Hernandez, vous l'avez dit, les réseaux sociaux, TikTok, etc. Et que dans la dernière ligne droite, finalement, la conception plus traditionnelle de Petro semble avoir réussi à mobiliser le pays et l'arrière-pays.
En tout cas, l'opposition, quelle qu'elle soit, sera toujours la bienvenue pour dialoguer. C'est ce qu'il a dit hier Gustavo Petro. Une main tendue, la tâche s'annonce ardue. Qu'est-ce qui l'attend, Christophe Pagès? Juste, la presse lui donne un conseil.
Oui, pour faire fonctionner sa présidence, Gustavo Petro devra être un équilibriste, juge El Colombiano. Il arrive au pouvoir avec un ambitieux programme de réforme, le système de santé, les pensions, les relations internationales et les impôts. Pour y arriver, il devra obtenir d'innombrables oui au Congrès. Or, rappelle le journal, si le pacte historique est la force la plus importante au Congrès, il n'a pas la majorité. El Tiempo estime déjà que si cela ne fonctionne pas avec le Congrès, Petro pourrait très bien convoquer des consultations populaires, des référendums, voire même une assemblée constituante.
Et Christophe Ventura, encore une fois, je reviens à vous. Comment gouverner? C'est donc toute la question aujourd'hui pour Gustavo Petro.
Ah oui, ça c'est sûr que gouverner la Colombie est un sport de haut niveau. C'est un pays vraiment très compliqué avec à la fois des territoires qui sont sous le contrôle de groupes armés, de paramilitaires, de guérillas, de narcotrafiquants. C'est probablement un tiers de la Colombie qui n'est pas en fait sous le contrôle direct de l'État. Il faut imaginer ce que ça veut dire. On a un État avec des institutions qui sont très abîmées, des phénomènes de corruption un peu partout. Bref, on ne gouverne pas la Colombie comme on gouverne un pays européen standard. Donc pour lui, ça va être très difficile. Pourquoi? Parce que déjà, il n'a pas de majorité au Congrès, ça a été dit par votre confrère. Il va devoir négocier avec une partie du centre. Il peut y arriver, mais il va falloir à chaque fois négocier au cas par cas. Il va y avoir une opposition qui sera devant lui tout à fait hostile, tenace, et d'ailleurs dans son discours toujours, Gustavo Petro l'a lui-même dit féroce, hein, face à lui, il s'y attend. Il y a, alors ça c'est la grande question, l'institution militaire. Que vont faire les militaires qui n'apprécient pas le nouveau président? Ça c'est de notoriété publique. D'ailleurs, dans la campagne électorale, un haut gradé, des hauts gradés de l'armée colombienne avait dit tout le mal qu'il pensait à leur candidat et désormais président élu.
On peut imaginer que l'institution militaire n'accepte pas son autorité, lui qui devient chef suprême de l'armée.
Alors, je ne pense pas que ce soit le scénario le plus probable, fort heureusement, s'agissant de la Colombie. Pourquoi? Parce que, bon, d'une part, aujourd'hui, tout le monde a reconnu la victoire de Gustavo Petro, hein, il faut quand même le souligner, que ce soit évidemment Rodolfo Hernandez, mais aussi Alvaro Uribe, qui est l'ennemi personnel de Gustavo Petro depuis tant d'années. Si vous voulez, il a quand même reconnu la victoire de Petro, ce qui est quand même une manière d'envoyer un signal à ses militants, à ses troupes et aussi à l'appareil d'État, certains diraient même l'État profond colombien, de reconnaître la victoire de Petro. Et il y a quand même en Colombie une tradition, disons, du légalisme. Hein. Il y a quand même la tradition du légalisme constitutionnel. L'armée est légaliste. Elle n'a jamais fait de coup d'État, d'ailleurs, l'armée hein, en Colombie, dans l'histoire du pays. Donc je ne pense pas que ce soit le scénario le plus probable. Toutefois, ils peuvent, disons, faire valoir leurs droits, exiger des choses, mettre la pression sur le gouvernement pour conserver le pouvoir et le contrôle sur les narcos, etc., etc. C'est des choses comme ça qu'on pourra voir.
Une dernière question très rapidement, Christophe Ventura, Gustavo Petro, félicité par l'ensemble des pays de gauche latino-américains. Ce n'est pas la même gauche hein, que celle, par exemple, au Chili. C'est une gauche plus traditionnelle. Malgré tout, est-ce que ça peut être vu comme une source d'inquiétude par le presque voisin américain, les États-Unis?
Bah, Gustavo Petro, c'est quelqu'un qui a une trajectoire longue hein, dans l'histoire politique colombienne, des années 80 à sa victoire en 2022. C'est quelqu'un aujourd'hui qu'en France, on situerait au centre-gauche en réalité. Hein. Quand on dit gauche, ce serait plutôt le centre-gauche en ce qui le concerne. Donc c'est quelqu'un qui a un programme de c'est un réformiste, voilà, monsieur.
Christophe
Oui.
On vous avait perdu, oui. Un réformiste
pardon. Oui, je dis c'est un réformiste. C'est avant toute chose, c'est pas quelqu'un qui est à la tête d'un programme révolutionnaire en Colombie, pas du tout. Et quant aux États-Unis, bah, il a déjà donné quelques indications hier, puisqu'il a interpellé l'administration Biden pour leur demander un dialogue, une négociation sur les questions liées au changement climatique, à la transition énergétique. Mais il faut comprendre derrière ça, il y a aussi l'enjeu pétrolier et minier. Il y a pas mal de multinationales nord-américaines qui ne voient pas bon oeil, l'axe et l'orientation pour sortir du modèle extractiviste de Petro.
Et on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup à Christophe Ventura de l'IRIS pour cette analyse donc de l'élection présidentielle en Colombie. Il est 8h22 à Quito, l'Équateur est secoué depuis plus d'une semaine par un vaste mouvement de contestation indigène. Les autorités durcissent le ton. Christophe Pagé, la police hier a réquisitionné un centre culturel indigène dans la capitale.
Oui, ce n'est pas une caserne, criaient hier des habitants, alors que la police prenait le contrôle du centre pour accueillir les policiers et créer le comercio, pour en faire une base de contrôle des manifestations anti-gouvernementales. La dernière fois que la police a pris le centre, c'était il y a 46 ans, pendant une dictature, a regretté son président sur Twitter. Une décision qui s'appuie sur l'état d'urgence déclaré dans trois provinces, dont la capitale, par le président Guillermo Lasso. La grève nationale a été lancée il y a une semaine et ce lundi, de nouvelles manifestations sont prévues. Les manifestants indigènes avancent sur la route panaméricaine sud vers Quito, écrit El Universo.
Autre ambiance hier au Brésil. C'était la Sao Paulo, la 26e marche des LGBTQIA+, Christophe.
Après deux années de célébration en ligne, pour cause de pandémie, écrit le site G1 Globo, le parcours traditionnel a eu lieu. Pour G1 Globo, le ton était politique. En cette année d'élection présidentielle, la foule a scandé dehors Bolsonaro en prison. Mais pour Folia de Sao Paulo, la tension politique n'était pas aussi élevée que lors d'autres festivals. Rares ont été les chanteurs à déclarer leur soutien à Lula ou critiquer le président Bolsonaro de manière explicite. C'était comme si pendant quelques jours, le public s'était permis d'oublier l'avenir du pays et les refrains politiques pour ne se préoccuper que de s'amuser.
Christophe Pagé, merci.
Gonaïve. 90.5 FM.
Les Gonaïves au nord d'Haïti, douchés par des pluies en milieu de semaine dernière. Au dernier bilan, 1300 maisons inondées, 3000 familles sinistrées. La faute à des canaux qui n'ont pas été nettoyés depuis plus d'une décennie. Reportage sur place, Ronel Paul.
Ce matin, Dukens, un habitant de Cassoleil, au nord-ouest des Gonaïves, essaie de créer un chemin pour évacuer l'eau de sa maison, située à quelques mètres du drain principal. Dans la cour, l'eau monte jusqu'à la quatrième rangée de pierres. À l'aide d'un récipient, il ramasse l'eau qu'il jette par-dessus la clôture. Hier, il a failli être emporté par les eaux.
Ouais, Tu vois, l'eau était montée jusqu'ici et bloquait le portail. Quand j'ai essayé de sortir, l'eau du drain a failli m'emporter. J'avais un bâton à la main pour aider une dame et une valise sur le dos. Lorsque je suis arrivé à une certaine distance, j'ai laissé la dame continuer. Mais c'était très compliqué de revenir sur mes pas. Pour revenir, je tenais des pierres qui se trouvaient sur la route. Franchement, la vie ici, c'est vraiment triste.
À quelques mètres de là, une famille est bloquée dans la véranda de sa maison. Germaine, une vieille dame de 60 ans, regarde avec stupéfaction sa cour remplie d'eau. Elle nous invite à visiter l'intérieur de la maison, la chambre à coucher est envahie par l'eau. Selon elle, c'est le mauvais drainage de l'eau de pluie qui est l'unique responsable.
Tu vois ce drain, il n'a jamais été nettoyé depuis la gouvernance du président René Garcia-Préval. À chaque fois qu'il y a une inondation, on voit des autorités venir et faire semblant de vouloir le nettoyer. Mais elles ne font rien. Enlever quelques camions de boue, ça ne sert à rien. La solution, c'est en aval du drain qu'il faut déboucher.
Outre des tas d'immondices qui bloquent complètement l'évacuation des eaux, l'urbanisation anarchique est une autre cause d'inondation de la cité de l'Indépendance. Au Gonaïf, aucun canal ne se déverse directement dans la mer. En aval du drain principal, par exemple, des maisons en tôle sont construites un peu partout et bloquent le passage des eaux usées. Face à une telle situation, le directeur départemental de la protection civile, Faustin Joseph, craint le pire.
Nous sommes très préoccupés tout d'abord par la quantité de cyclones prévus pour la région, de 14 à 21 cyclones. On voit les dégâts que provoque une onde tropicale, donc si c'était une tempête tropicale de 2 à 3 jours de pluie successive, il y aurait beaucoup de choses à gérer. En plus, nous manquons de matériel et de ressources humaines. Nous ne sommes pas bien équipés et nous constatons aussi que nous avons vraiment un déficit de brigadiers. Beaucoup d'entre eux ont quitté la protection civile et même Haïti.
À peine démarrée, la saison cyclonique effraie déjà la population gonaïvienne qui redoute de revivre 2004 et 2008 quand deux tempêtes tropicales avaient fait plus de 3000 morts. Ronel Paul et Gonaïve, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Mickaël.
8 élus sur 10 aux Antilles, en Guyane, la nouvelle Union populaire, la NUP, a quasiment fait carton plein hier aux législatives.
Et même carton tout à fait plein en Martinique, 4 sur 4 avec 3 nouveaux députés, Giovanni William, Marcel Anado et Johnny Hajar, soutenus par la France Insoumise, et Jean-Philippe Nilor, réélu dans la 4e circonscription. Au passage, il a largement battu son prédécesseur et ancien mentor Alfred Marie-Jeanne, à qui il a d'ailleurs rendu hommage après sa réélection.
Personnellement, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup porté, m'a beaucoup apporté. Je n'ai jamais souhaité cette confrontation finale. Son entourage l'a voulu. Je ne suis pas sûr que lui l'ait voulu. Son entourage l'a voulu. Et je crois que son entourage, par son entêtement et par cette espèce d'acharnement thérapeutique qu'ils ont voulu instituer, l'entourage de M. Marie-Jeanne ne lui a pas été profitable. Cet entourage, s'il l'aime, l'homme aurait dû lui permettre de sortir par la grande porte. Quelque part, la victoire est large, elle est éclatante. J'ai pas envie que ce soit synonyme de désaveu pour le grand homme politique qu'il a été et qui restera quelque part à jamais dans la mémoire du peuple martiniquais.
Les électeurs guyanais ont également choisi le renouvellement dans la première circonscription qui compte Cayenne. C'est Jean-Victor Castor qui est élu député, militant du mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale. Et puis dans la deuxième, le député sortant, Lénaïque Adam, LREM, est délogé de son siège par Davy Riemann, le syndicaliste soutenu par la France Insoumise, engrange un peu plus de 54% des suffrages. Un reportage à Kourou, Olivier Damon.
Le soulagement pour tout le camp Riemann. Après deux tentatives manquées, cette fois c'est la bonne.
Aujourd'hui c'est une victoire populaire. C'est une victoire populaire. Et toute cette mandature-là, on va travailler pour le peuple et on va être au service du peuple et pas l'inverse.
Il est un peu plus de 20h quand la victoire de l'enfant des savanes est confirmée dans les médias. 1261 voix d'écart, dont une grande partie obtenue par Davy Riemann chez lui, à Kourou. Pour cette troisième bataille, il s'est appuyé sur des expériences comme celle de José Gayou, ancien conseiller municipal et régional.
De façon naturelle, je l'accompagnais parce que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. J'ai souvent dit dans les conférences que c'est une belle personne parce que Davy est toujours resté derrière ses convictions.
Élu à Kourou depuis 2020, Davy Riemann franchit un nouveau cap politique à 42 ans. Député de la Guyane.
Et puis 3 députés sur 4 en Guadeloupe pour la nouvelle Union populaire, dont Christian Baptiste qui a éliminé Justine Bénin, la secrétaire d'État à la mer. Bon après-midi, Michael. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Farron, à vous et aux équipes de la première. Merci à Laurie Plisson qui était à la réalisation aujourd'hui de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et RFI.fr.